Chercher le bonheur sans violer les lois est sagesse. Travailler au bien général est religion. Fouler aux pieds la félicité d'autrui en courant après la sienne est une action injuste. Au contraire, se priver de quelques jouissances pour en faire part aux autres, c'est le signe d'un cœur noble et humain qui, du reste, retrouve bien au-delà du plaisir dont il a fait le sacrifice. D'abord, cette bonne œuvre est récompensée par la réciprocité des services. Ensuite, le témoignage de la conscience, le souvenir et la reconnaissance de ceux qu'on a obligés causent à l'âme plus de volupté que n'aurait pu en donner au corps l'objet dont on s'est privé. Enfin, l'homme qui a foi aux vérités religieuses doit être fermement persuadé que Dieu récompense la privation volontaire d'un plaisir éphémère et léger par des joies ineffables et éternelles. Ainsi, en dernière analyse, les utopiens ramènent toutes nos actions et même toutes nos vertus au plaisir, comme à notre fin. Ils appellent volupté tout état ou tout mouvement de l'âme et du corps dans lesquels l'homme éprouve une délectation naturelle. Ce n'est pas sans raison qu'ils ajoutent le mot « naturel », car ce n'est pas seulement la sensualité, c'est aussi la raison qui nous attire vers les choses naturellement délectables. Et par là, il faut entendre les biens que l'on peut rechercher sans injustice, les jouissances qui ne privent pas d'une jouissance plus vive et qui ne traînent à leur suite aucun mal. Il y a des choses en dehors de la nature que les hommes, par une convention absurde, nomment des plaisirs, comme s'ils avaient le pouvoir de changer les essences aussi facilement que les mots. Ces choses, loin de contribuer au bonheur, sont autant d'obstacles pour y parvenir. Elles empêchent ceux qu'elles séduisent de jouir des satisfactions pures et vaines. Elles faussent l'esprit en le préoccupant de l'idée d'un plaisir imaginaire. Il y a en effet une foule de choses auxquelles la nature n'a attaché aucune douceur, auxquelles même elle a mêlé de l'amertume, et que les hommes regardent comme de hautes voluptés nécessaires, en quelque sorte, à la vie. Quoique la plupart soient essentiellement mauvaises et ne stimulent que des passions mauvaises. Les utopiens classent dans ce genre de volupté bâtarde la vanité de ceux dont j'ai parlé, qui se croient meilleurs parce qu'ils ont un plus bel habit. La vanité de ces faits est doublement ridicule. Premièrement, ils estiment leur habit au-dessus de leur personne. Car, pour ce qui est de l'usage, en quoi, je vous prie, une laine plus fine l'emporte-t-elle sur une laine plus épaisse? Cependant, les insensés, comme s'ils se distinguaient de la multitude par l'excellence de leur nature, et non par la folie de leur conduite, dressent fièrement la tête, s'imaginant valoir un grand prix. Ils exigent, en raison de la riche élégance de leurs vêtements, des honneurs qu'ils n'oseraient espérer avec une mise simple et commune. Ils s'indignent quand on regarde leur toilette d'un œil indifférent. En second lieu, ces mêmes hommes ne sont pas moins stupides de se repaître d'honneurs sans réalité et sans fruit. Est-il naturel et vrai le plaisir que l'on ressent en face d'un flatteur qui se découvre la tête et plie humblement le genou? Une génuflexion guérit-elle donc de la fièvre ou de la goutte? Parmi ceux que séduit encore une fausse image du plaisir sont les nobles, qui se complaisent avec orgueil et avec amour dans la pensée de leur noblesse. Et de quoi s'applaudissent-ils? Du hasard qui les a fait naître d'une longue suite de riches aïeux, et surtout de riches propriétaires, car la noblesse d'aujourd'hui, c'est la fortune. Néanmoins, ces insensés, n'eussent-ils rien hérité de leur père, ou bien eussent-ils dévoré tout leur patrimoine, que malgré cela, ils ne se croiraient pas moins nobles d'un cheveu. Les utopiens rangent les amateurs de pierreries dans la catégorie des entichés de noblesse. Les hommes qui ont cette passion se croient de petits dieux, quand ils ont trouvé une pierre belle et rare, particulièrement estimés de leur temps et dans leur pays. Car la même pierre ne conserve pas toujours et partout la même valeur. L'amateur de joyaux les achète nus et sans or. Il pousse même la précaution jusqu'à exiger du vendeur une caution, et aussi le serment que le diamant, le rubis, la topaze sont de bonne aloi, tant il craint qu'un faux brillant n'en impose à ses yeux. Quel plaisir y a-t-il donc à regarder une pierre naturelle plutôt qu'une pierre artificielle, puisque l'œil n'en peut saisir la différence. L'une ou l'autre n'a réellement pas plus de valeur pour un voyant que pour un aveugle. Que dire des avares qui entassent argent sur argent? Non pour en user, mais pour se repaître de la contemplation d'une énorme quantité de métal. Le plaisir de ces riches misérables n'est-il pas une pure chimère? Est-il plus heureux celui qui, par un travers plus stupide encore, enterre ses écus? Il ne voit pas même son trésor, et la peur de le perdre fait qu'il le perd en réalité. Car enfouir de l'or, n'est-ce pas le voler à soi-même et aux autres? Cependant, l'avare est tranquille, il saute de joie quand il a enfoui bien avant ses richesses. Maintenant, supposons que quelqu'un s'empare de ce dépôt confié à la terre, et que notre ladre survive 10 ans à sa ruine sans le savoir. Je vous le demande, que lui importe, durant l'intervalle, d'avoir conservé ou perdu son trésor? Enterré ou volé, il lui fait absolument le même usage. Les utopiens regardent aussi comme imaginaire les plaisirs de la chasse et des jeux de hasard, jeux dont ils ne connaissent la folie que de nom, ne les ayant jamais pratiqués. Quel amusement pouvez-vous trouver, disent-ils, à jeter un dé sur un tablier? Et, en supposant qu'il y a là une volupté, vous vous en êtes rassasié tant de fois qu'elle doit être devenue pour vous ennuyeuse et fade. N'est-ce pas chose plus fatigante qu'agréable d'entendre japper et aboyer des chiens? Est-il plus réjouissant de voir courir un chien après un lièvre que de le voir courir après un chien? Néanmoins, si c'est la course qui fait le plaisir, la course existe dans les deux cas. Mais n'est-ce pas plutôt l'espoir du meurtre, l'attente du carnage qui passionne exclusivement pour la chasse? Et comment ne pas ouvrir plutôt son âme à la pitié? Comment n'avoir pas horreur de cette boucherie où le chien fort, cruel et hardi déchire le lièvre faible, peureux et fugitif? C'est pourquoi nos insulaires défendent la chasse aux hommes libres comme un exercice indigne d'eux. Ils ne la permettent qu'aux bouchers, qui sont tous esclaves. Et même, dans leur opinion, la chasse est la partie la plus vile de l'art de tuer les bêtes. Les autres parties de ce métier sont beaucoup plus honorées, parce qu'elles rapportent plus de profit, et qu'on y tue les animaux que par nécessité, tandis que le chasseur cherche dans le sang et le meurtre une stérile jouissance. Les utopiens pensent en outre que cet amour de la mort, même de la mort des bêtes, est le penchant d'une âme déjà féroce, ou qui ne tardera pas à le devenir, à force de se repaître de ce plaisir barbare. Les utopiens méprisent toutes ces joies, et beaucoup d'autres semblables, en nombre presque infini, que le vulgaire envisage comme des biens suprêmes, mais dont la suavité apparente n'est pas dans la nature. Quand même ces plaisirs rempliraient l'essence de la plus délicieuse ivresse, ce qui semble être l'effet naturel de la volupté, ils affirment qu'ils n'ont rien de commun avec la volupté véritable. Car, disent-ils, ce plaisir sensuel ne vient pas de la nature même de l'objet. Il est le fruit d'habitudes dépravées qui font trouver doux ce qui est amer. C'est ainsi que les femmes grosses, dont le goût s'est corrompu, trouvent la poix et le suif plus doux que le miel. Cependant, le jugement de l'individu, si corrompu soit-il par la maladie ou par l'habitude, ne peut pas plus changer la nature du plaisir qu'il ne lui appartient de transformer la nature des choses. Les utopiens distinguent diverses sortes de vrais plaisirs. Les uns se rapportent au corps, les autres à l'âme. Les plaisirs de l'âme sont dans le développement de l'intelligence et les pures délices qui accompagnent la contemplation de la vérité. Nos insulaires y joignent aussi le témoignage d'une vie irréprochable et l'espérance certaine d'une immortalité bienheureuse. Ils divisent en deux espèces les voluptés du corps. La première espèce comprend toutes les voluptés qui opèrent sur les sens une impression actuelle, manifeste, et dont la cause est le rétablissement des organes épuisés par la chaleur interne. Cette impression naît d'une part de l'action de boire et de manger, qui rend les forces perdues. D'autre part, des fonctions animales qui chassent du corps les matières dont il surabondait. Telles sont les sécrétions intestinales, le coït et l'apaisement d'une démangeaison quelconque en frottant ou grattant. Quelquefois, le plaisir des sens ne provient pas des fonctions animales qui réparent les organes épuisés ou les débarrassent d'une exubérance pénible. Il est l'effet d'une force intérieure et indéfinissable qui émeut, charme et attire. Tel est le plaisir qui naît de la musique. La seconde espèce de volupté sensuelle consiste dans l'équilibre stable et parfait de toutes les parties du corps, c'est-à-dire dans une santé exempte de malaise. En effet, l'homme que n'affecte pas la douleur éprouve en soi un certain sentiment de bien-être, quand même aucun objet extérieur n'ébranlerait agréablement ses organes. Il est vrai que cette sorte de volupté n'agite et n'étourdit pas les sens, comme par exemple les plaisirs de la table. Néanmoins, plusieurs la mettent au premier rang, et presque tous les utopiens déclarent qu'elle est la base et le fondement du vrai bonheur. Car, disent-ils, ce n'est qu'avec une santé parfaite que la condition de la vie humaine est rendue paisible et souhaitable. Sans la santé, il n'est plus de volupté possible. Sans elle, l'absence même de la douleur n'est pas un bien, c'est l'insensibilité du cadavre. Une vive querelle s'éleva autrefois en utopie à ce sujet. Quelques-uns prétendaient qu'on ne devait pas compter au nombre des plaisirs une santé stable et tranquille, parce qu'elle ne fait pas percevoir une jouissance actuelle et distincte, ainsi que les sensations qui viennent du dehors. Mais aujourd'hui, tous, à une exception très minime, s'accordent à proclamer la santé comme une volupté essentielle. En effet, d'après eux, c'est la douleur qui, dans la maladie, est l'ennemi implacable du plaisir. Or, la maladie est également l'ennemi de la santé. Pourquoi donc n'y aurait-il pas de plaisir dans la santé, de même qu'il y a douleur dans la maladie? Il importe peu à la question que la maladie soit la douleur, ou que la douleur soit inhérente à la maladie, puisque les résultats sont entièrement semblables. Soit donc que l'on envisage la santé comme la volupté elle-même, ou bien comme la cause qui la produit nécessairement, ainsi que le feu produit nécessairement la chaleur, toujours est-il que dans les deux cas, l'homme qui jouit d'une santé inaltérable doit éprouver un certain plaisir. Quand nous mangeons, disent les utopiens, n'est-ce pas la santé qui, commençant à défaillir, combat contre la faim avec le secours des aliments? Ceux-ci s'avancent, chassent devant eux ce cruel ennemi, et inspirent à l'homme cette joie qui accompagne le retour de sa vigueur normale. Mais la santé qui prenait tant de plaisir au combat ne se réjouirait-elle pas après la victoire? Ce qu'elle cherchait dans la lutte, c'était sa force première. Et ce résultat obtenu, est-il possible qu'elle tombe dans un engourdissement stupide, sans connaître ni aimer son bonheur? Les utopiens, en conséquence, rejettent pleinement l'opinion que l'homme d'important n'a pas le sentiment de son état. Suivant eux, il faut être malade ou endormi pour ne pas sentir qu'on se porte bien. Il faut être de pierre ou frappé de léthargie pour ne pas se complaire dans une santé parfaite, pour ne pas y trouver du charme. Or, ce charme, cette complaisance, qu'est-ce autre chose que de la volupté? Il se livre par-dessus tout au plaisir de l'esprit, qu'ils regardent comme les premiers et les plus essentiels de tous les plaisirs. Ils mettent au rang des plus purs et des plus souhaitables la pratique de la vertu et la conscience d'une vie sans souillure. Parmi les voluptés corporelles, ils donnent la préférence à la santé, car, dans leur opinion, si l'on doit rechercher la bonne chair et les autres jouissances de la vie animale, c'est uniquement en vue de la conservation de la santé, attendu que ces choses ne sont pas délectables par elles-mêmes, mais seulement parce qu'elle s'oppose à l'invasion secrète de la maladie. L'homme sage prévient le mal plutôt que d'employer les remèdes. Il évite la douleur plutôt que de recourir au soulagement. D'après cela, les utopiens usent de tous les plaisirs du corps dont la privation nécessiterait l'emploi de moyens curatifs, mais ils ne mettent pas tout leur bonheur dans ces plaisirs. Autrement, le comble de la félicité humaine serait la faim et la soif en permanence, puisqu'il faudrait alors manger et boire sans désemparer. Certes, une pareille vie serait aussi misérable qu'ignoble. Les jouissances animales sont les plus viles, les moins pures, et toujours il y a une douleur qui les accompagne. La faim n'est-elle pas unie au plaisir de manger, et cela en partie bien inégale? En effet, la sensation de la faim est la plus violente, elle est aussi la plus durable, puisqu'elle naît avant le plaisir et ne meurt qu'avec lui. Les utopiens, pénétrés de ces principes, pensent qu'on ne doit faire grand cas des voluptés charnelles qu'autant qu'elles sont nécessaires et utiles. Toutefois, ils s'y abandonnent joyeusement et remercient la nature qui prend soin de l'homme avec la tendresse d'une mère, en mêlant des impressions si douces et suaves aux fonctions indispensables de la vie. Quel triste sort serait le nôtre s'il nous fallait chasser, à force de poisons et de drogues amères, la faim et la soif de chaque jour, comme nous chassons les autres maladies qui nous assiègent de loin en loin. Ils entretiennent et cultivent volontiers la beauté, la vigueur, l'agilité du corps, ces dons les plus agréables et les plus heureux de la nature. Ils admettent aussi les plaisirs que l'on perçoit par la vue, l'ouïe et l'odorat, plaisirs que la nature a créés exclusivement pour l'homme et qui font l'assaisonnement et le charme de la vie. Car la bête n'arrête pas son regard sur la magnificence de la création, sur l'ordre et l'arrangement de l'univers. Elle flaire l'odeur pour distinguer sa nourriture, mais elle ne savoure pas les délices des parfums. Elle ne connaît pas les rapports des sons et n'apprécie ni la dissonance ni l'harmonie. Au reste, en toutes sortes de satisfactions sensuelles, les utopiens n'oublient jamais cette règle pratique. Fuir la volupté qui empêche de jouir d'une volupté plus grande, ou qui est suivie de quelques douleurs. Or, la douleur est, à leurs yeux, la suite inévitable de toute volupté déshonnête. Voici encore un de leurs principes. Mépriser la beauté du corps, affaiblir ses forces, convertir son agilité en engourdissement, épuiser son tempérament par le jeûne et l'abstinence, ruiner sa santé, en un mot, repousser toutes les faveurs de la nature, et cela pour se dévouer plus efficacement au bonheur de l'humanité, dans l'espoir que Dieu récompensera ses peines d'un jour par des extases d'éternelle joie, c'est faire acte de religion sublime. Mais se crucifier la chair, se sacrifier pour un vain fantôme de vertu, ou pour s'habituer d'avance à des misères qui peut-être n'arriveront jamais, c'est faire acte de folie stupide, de lâche cruauté envers soi-même, et d'orgueilleuse ingratitude envers la nature. C'est fouler aux pieds les bienfaits du Créateur, comme si l'on dédaignait de lui avoir quelque obligation. Telle est la théorie utopienne touchant la vertu et le plaisir. À moins qu'une révélation descendue du ciel n'inspire à l'homme quelque chose de plus saint, il croit que la raison humaine ne peut rien imaginer de plus vrai. Cette morale est-elle bonne, est-elle mauvaise? C'est ce que je ne discuterai pas. Je n'en ai pas le temps, et cela n'est pas nécessaire à mon but. J'ai entrepris une histoire et non une apologie. Ce qui est certain pour moi, c'est que le peuple d'Utopie, grâce à ses institutions, est le premier de tous les peuples et qu'il n'existe pas ailleurs de république plus heureuse. L'utopien est preste et nerveux. Sans être de petite taille, il est plus vigoureux qu'il ne le paraît extérieurement. L'île n'est pas d'une égale fertilité en tout lieu. L'air n'y est pas partout également pur et salubre. Les habitants combattent par la tempérance les influences funestes de l'atmosphère. Ils corrigent le sol au moyen d'une excellente culture, en sorte que nulle autre part on ne vit jamais de plus riche bétail, ni de plus abondante récolte. Nulle autre part, la vie de l'homme n'est plus longue et les maladies moins nombreuses. Non seulement les citoyens agriculteurs exécutent avec une grande perfection les travaux qui fertilisent une terre naturellement ingrate, mais le peuple en masse est employé quelquefois à déraciner des forêts mal situées pour la commodité du transport, puis à en planter de nouvelles près de la mer, des fleuves ou des villes. Car, de tous les produits du sol, le bois est le plus difficile à transporter par terre. Le peuple utopien est spirituel, aimable, industrieux, aimant le loisir, et néanmoins patient au travail, quand le travail est nécessaire. Sa passion favorite est l'exercice et le développement de l'esprit. Pendant notre séjour dans l'île, nous avions dit aux habitants quelques mots des lettres et des sciences de la Grèce. C'était chose vraiment curieuse à voir que l'empressement avec lequel ces bons insulaires nous suppliaient de leur interpréter les auteurs grecs. Nous ne leur avions pas parlé des latins, pensant qu'ils n'estimeraient parmi ces derniers que les historiens et les poètes. Enfin, il nous fallut céder à leurs prières, et, je vous l'avouerai, ce fut de notre part un acte de pure complaisance, dont nous n'espérions pas tirer grand fruit. Mais, après quelques leçons, nous eûmes lieu de nous féliciter du succès de notre entreprise, du zèle et des progrès de nos élèves. Nous étions émerveillés de leur facilité à copier la forme des lettres, de la netteté de leur prononciation, de la promptitude de leur mémoire et de la fidélité de leur traduction. Il est vrai que la plupart de ceux qui s'étaient livrés d'abord spontanément à cette étude avec une si belle ardeur y furent obligés depuis par un décret du Sénat. Ceux-là étaient les savants les plus distingués de la classe des lettrés et des hommes d'un âge mûr. Aussi, en moins de 3 ans, il n'y avait rien dans les ouvrages des bons auteurs qu'ils ne comprissent parfaitement à la lecture, à part les difficultés provenant des erreurs typographiques. M'est avis que cette grande facilité avec laquelle ils apprirent le grec prouve que cette langue ne leur était pas tout à fait étrangère. Je les crois grecs d'origine. Et quoique leur idiome se rapproche beaucoup du persan, l'on trouve dans les noms de leurs villes et de leur magistrature quelques traces de la langue grecque. Lors de mon 4e voyage en Utopie, au lieu de marchandises, j'avais embarqué une assez jolie pacotille de livres, bien résolu que j'étais de revenir en Europe le plus tard possible. En quittant les Utopiens, je leur laissai ma bibliothèque. Ils eurent ainsi de moi presque toutes les œuvres de Platon, un grand nombre de celles d'Aristote et le livre de Théophraste. Sur les plantes, livre déchiré en plusieurs endroits, ce que je regrette infiniment. Pendant la traversée, je l'avais laissé à l'abandon. Malheureusement, un singe le trouva, et le drôle prit plaisir à en arracher ça et là les feuillets. De tous les grammairiens, je ne pus donner à nos insulaires que le seul Lascaris, car je n'avais pas apporté Théodore. En fait de dictionnaire, ils ont Hésychius et Dioscoride. Plutarque est leur auteur favori. L'enjouement et les grâces de Lucien les enchantent. Parmi les poètes, ils possèdent Aristophane, Homère, Euripide et le Sophocle d'Aldus en petits caractères. En fait d'historien, je leur laissais Thucydide, Hérodote et Hérodien. En médecine, ils ont quelques ouvrages d'Hippocrate et le Microtechné de Galien que mon compagnon de voyage, Tricius Apinas, avait apporté avec lui. Ces deux derniers livres sont chez eux en grande estime. Car s'il n'y a pas de pays où la médecine soit moins nécessaire qu'en Utopie, il n'y en a pas où elle soit plus honorée. Les Utopiens la mettent au rang des parties les plus utiles et les plus nobles de la philosophie naturelle. Le médecin, disent-ils, qui s'applique à pénétrer les mystères de la vie, non seulement puise dans cette étude d'admirables jouissances, mais encore il se rend agréable au divin ouvrier, auteur de la vie. Dans les idées utopiennes, le Créateur, ainsi que les ouvriers de la terre, expose sa machine du monde au regard de l'homme, seul être capable de comprendre cette belle immensité. Dieu voit avec amour celui qui admire ce grand œuvre, et cherche à en découvrir les ressorts et les lois. Il regarde avec pitié celui qui demeure froid et stupide à ce merveilleux spectacle, comme une bête sans âme. On concevra maintenant que les utopiens, dont l'esprit est cultivé sans cesse par l'étude des sciences et des lettres, soient doués d'une aptitude remarquable pour les arts et les inventions utiles au bien-être de la vie. Ils nous doivent l'imprimerie et la fabrication du papier. Mais en cela, leur génie leur servit autant que nos leçons, car nous ne connaissions bien à fond aucun de ces deux arts. Nous ne fîmes donc que leur montrer les impressions d'Aldus, leur parlant en termes vagues de la matière employée à la fabrication du papier et des procédés de l'imprimerie. Bientôt, ils devinèrent ce que nous leur avions seulement indiqué. Avant, ils écrivaient sur des peaux, des écorces, des feuilles de papyrus. Ils essayèrent bien vite de faire du papier et d'imprimer. Ces premières tentatives furent stériles, mais à force d'expériences 1000 fois répétées, ils parvinrent à obtenir un succès complet. Et s'ils avaient en main tous les manuscrits grecs, ils pourraient en tirer de nombreuses éditions. Ils ne possèdent aujourd'hui d'autres livres que ceux que je leur ai laissés, mais ces livres, ils les ont déjà multipliés par milliers d'exemplaires. L'étranger qui aborde en Utopie y est parfaitement reçu s'il se recommande par un mérite réel ou si de longs voyages lui donnent une science exacte des hommes et des choses. C'est à ce dernier titre que nous devons d'avoir été bienvenus dans ce pays, où l'on est excessivement curieux de savoir ce qui se passe au dehors. Le commerce y attire peu de monde, car, à l'exception du fer, que porter en Utopie? De l'or et de l'argent? Mais on serait certainement obligé de remporter l'un et l'autre. Quant au commerce d'exportation, les Utopiens le font eux-mêmes, et en cela, ils ont en vue 2 objets. D'abord, se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur, puis entretenir et perfectionner leur navigation.